Vous écoutez France Culture.
7h42 minutes.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et alors on pourrait se poser la question, les paradis fiscaux sont-ils en train de fermer définitivement leurs portes? Oui, on avait envie de poser la question comme ça, même si la réponse sans doute sera un peu plus nuancée. Ben, parce qu'après tout, regardez ce qu'a dit Michel Sapin cette semaine au Point, alors que les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 étaient réunis lundi et mardi à Istanbul. Michel Sapin a déclaré « l'époque où l'on pouvait frauder ». Est révolue. Eh oui, l'époque pour pouvait frauder est révolue, a dit le ministre. Pourtant, l'époque des scandales financiers et encore tout ce qu'il y a de plus actuel, après les offshore leaks, les LuxLeaks en novembre, voici venu le temps des Swiss Leaks. Un scandale bancaire a révélé lundi par Le Monde, vous le savez, et qui vise la filiale suisse de la banque britannique HSBC, la banque donc qui aurait aidé en 2006 et 2007 des milliers de contribuables à dissimuler en tout plus de 180 milliards d'euros parmi les clients ou ex-clients, des célébrités, des sportifs, des entrepreneurs millionnaires et même des Saoudiens soupçonnés d'avoir financé Oussama Ben Laden dans les années 2000. Fin octobre, au Forum fiscal de Berlin, 90 pays s'étaient engagés à mettre en œuvre l'échange automatique de données fiscales, mettant ainsi fin au fameux secret bancaire. Alors, SwissLeaks est-il un scandale comme nous ne pourrons plus en voir ? Assistons-nous donc à la fin des paradis fiscaux ? On peut toujours poser la question. Et cette amélioration sur le terrain du secret bancaire ouvre-t-elle le début d'un autre immense chantier, le fameux chantier de l'optimisation fiscale des multinationales ? Pour parler de toutes ces questions aujourd'hui, nous recevons donc Lucie Vatrinet, bonjour.
Bonjour.
Chargée des plaidoyers au CCFD. Vous nous redites CCFD, l'acronyme ?
Comité catholique contre la faim et pour le développement.
Voilà, c'est Terre solidaire,
oui. Hein,
et coordinatrice de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaire. Également avec nous Christian Chavagneux. Bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste à Alternative Économique et Alter Eco Plus. Et vous êtes, vous, l'auteur de La Capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation, écrit avec Thierry Philipponat et paru en mars aux éditions La Découverte. Et donc, nous sommes avec Renard Argenté. Ça vous plaît, il est joli ce petit surnom.
Hein, il faut dire d'où il vient quand même.
Ah, ben, allez-y, oui.
Mais en fait, il y a un film qui est récemment sorti dans les salles de cinéma, d'ailleurs, sur les paradis fiscaux.
Ouais.
Et comme je suis en charge de la lutte contre les paradis fiscaux à l'OCDE, j'y apparais. Et puis, entre deux images où j'apparais, il y a un avocat des îles Caïmans qui fait une conférence aux îles Caïmans et qui fait rire la salle en disant qu'ils font de la fraude fiscale depuis 30 ans et qu'il y a quelqu'un qui arrive, un Français évidemment, qui s'appelle Saint-Amand, qui a une barbe de 3 jours et qui est le renard argenté.
Voilà, vous vous battez depuis 7 ans contre l'évasion fiscale. Depuis 2 ans, vous dirigez le Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, d'où vous développez des modèles de lutte contre l'évasion fiscale, notamment discutée par le G20. Bah écoutez, on va l'entendre, hein, le film en question, c'est Le Prix à payer, hein, d'Harold Crooks, actuellement en salle. On écoute James Henry.
On ne manque pas de solutions techniques aux problèmes identifiés. C'est politique. C'est un problème d'organisation. Des acteurs majeurs sont sous l'emprise de l'industrie mondiale offshore et des multinationales qu'elle représente, ainsi que d'individus extrêmement riches. La solution ne viendra pas de leur initiative. Ils ne veulent pas de ces réformes. Nous devons faire pression sur eux.
Voilà, c'est James Henry, ancien économiste en chef du cabinet McKinsey, qui est membre aujourd'hui de Tax Justice Network, qui s'exprime dans le film Le Prix à payer. La première question est toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, les scandales qui se succèdent les uns après les autres sont après tout le signe que cela va plutôt bien ? C'est-à-dire qu'au fond, les méthodes de recherche, d'enquête font que l'on peut mettre en lumière davantage d'affaires de fraude fiscale, de paradis fiscaux comme celle-ci ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a de plus en plus ?
Non, je crois que
Pascal Saint-Amand.
C'est le signe que ça allait très mal. Et c'est le signe qu'il y a une réaction, qu'il y a un degré de tolérance qui est proche de zéro. Des peuples, des gens, des politiques, avec un retour du politique. Et tout ceci n'a été possible, hélas, que grâce à la crise. C'est la crise qui a réintroduit ce retour du politique avec une démarche, en anglais on dit top-down, qui vient vraiment du haut. C'est-à-dire c'est les chefs d'État et de gouvernement du G20 qui tranchent et qui tranchent dans le vif en disant on va mettre fin au secret bancaire, quels que soient les intérêts qu'on puisse avoir avec la Suisse ou d'autres pays à secret bancaire, et qui ensuite vont décider de s'attaquer à l'optimisation des multinationales.
Christian Chavagneux, Vanieux ?
Je crois que le contexte a complètement changé. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques en France, en Europe, au niveau mondial. Il y a des représentantes de la société civile, il y a des journalistes d'investigation. Il y a des lanceurs d'alerte, des gens qui ne supportent plus à l'intérieur des entreprises de voir ce qui se passe au niveau fiscal. Et donc, le contexte politique a complètement changé. C'est une remise en cause assez fondamentale. La dernière fois que les grands États se sont préoccupés de ça, c'était il y a un siècle. C'est un moment historique. C'est la mobilisation, c'est maintenant.
Et Lucie Vatrinet ?
Et tout à fait, ça fait presque, en tant que membre de la société civile, je dois rappeler que ça fait presque 12-15 ans même qu'on est mobilisé sur ces questions et qu'effectivement, il y a un contexte qui rend de plus en plus insupportable, un contexte de crise économique qui rend insupportable le fait de savoir que des riches particuliers ou des riches entreprises ne payent plus leurs impôts et qui rend possible justement la mise en place d'un rapport de force et qui est effectivement extrêmement intéressant en ce moment.
Alors, la jeune fille que vous voyez à côté de moi qui est en train de dessiner, c'est la Louison du vendredi. Hein. Bonjour Louison.
Oui.
Vous n'êtes pas à poids aujourd'hui?
Non, je suis à Guépard.
Voilà, bah oui, c'est ce qui va bien.
On va très vite.
Avec l'évasion fiscale, vous avez toujours la clochette. Hein, quand vous avez un dessin, vous nous faites signe. Dites peut-être un petit mot quand même autour de ce qui a accompagné les révélations du Monde. On a mis du coup aussi le doigt accusateur sur les journalistes qui n'ont pas à donner en pâture des noms de ceux qui font quelques fraudes fiscales. Même un des actionnaires du Monde s'en est inquiété sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel, Pierre Berger.
Il faut commencer par dire qu'il faut proscrire évidemment la fraude fiscale. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que c'est le rôle d'un journal et surtout d'un journal comme Le Monde de jeter en pâture des noms, des gens? Pourquoi Gad Elmaleh? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, c'est du populisme, c'est flatter les pires instincts qui soient, et ce n'est pas ça que devrait être un journal, en tout cas un journal comme Le Monde, et ce n'est pas pour ça que je suis venu au secours du Monde, et ce n'est pas pour ça que j'ai permis aux journalistes du Monde d'acquérir leur indépendance. Ce n'est pas pour ça.
C'est étrange, non? Je m'adresse au patron d'Alter Echo.
C'est bien pour ça.
Christian Chavagneux.
Bien sûr que c'est bien pour ça. Il faut dénoncer encore. Au Royaume-Uni, on va même bien plus loin, puisque c'est le gouvernement qui organise le naming and shaming. Alors, ce n'est pas plus efficace, hein, cela dit. Il n'y a pas moins de fraudeurs fiscaux au Royaume-Uni que chez nous. Ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'au-delà de, comme a dit le canard enchaîné, c'est un peu cruel, mais c'est drôle. Donc, au-delà de Gad Elmaleh, il y a quand même ce dont on s'aperçoit, c'est que le fraudeur français moyen, c'est plutôt un homme de 60 ans, profession libérale. Il a de l'argent, quelques millions, mais ce n'est pas un multimilliardaire. Il y a une forme de, entre guillemets, excusez-moi, de démocratisation d'utilisation des paradis fiscaux.
Sur cette question de la presse, tout de même, est-ce que, et puis après on reviendra quand même vraiment au sujet, mais est-ce que ça fait partie, cela dit, des choses qui peuvent vous aider à vous aussi dans votre travail, qui n'est pas celui de journaliste, je pense à vous, Pascal Saint-Amand et Lucie Vatrinet. Lucie Vatrinet.
Alors oui, effectivement, ça nous aide, et pas simplement parce qu'on a des personnes connues. Ce qui est très important dans ce scandale et dans les noms qui sont révélés, c'est qu'on voit bien qu'il y a une palette très large de raisons pour lesquelles on peut utiliser des comptes en Suisse. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça peut être utilisé à des fins de fraude fiscale, mais aussi de blanchiment d'argent. Se côtoient des patrons, se côtoient des personnes qui ont des revenus assez importants ou moins importants, comme Monsieur Chavagneux l'a souligné. Mais aussi, c'est aussi l'argent du crime, de la drogue qu'on retrouve dans ces comptes. Et ce qui montre bien qu'en fait, les paradis fiscaux sont au cœur d'un système d'opacité qui permet à la fois de frauder le fisc, mais aussi de cacher des avoirs criminels et du coup qui rend la lutte encore plus importante.
Écoutez Fabrice Lhomme, un des auteurs avec Gérard Davé de cette grande enquête, il est au micro d'Ambre Filouze Rousseau des matins de France Culture. Et on lui a demandé, au fond, on lui a posé cette question, pourquoi les journalistes ont-ils vocation à devenir des gendarmes de la fraude fiscale? La réponse est sans équivoque de notre confrère Fabrice Lhomme.
Je suis pas flic, je suis pas magistrat, je respecte le travail de tous ces gens, hein, le travail de la police est vraiment louable, etc. Ça n'a absolument rien à voir. On est journaliste. Le journaliste, c'est mettre sur la place publique des faits d'intérêt public, des faits d'intérêt général. On informe, et c'est vrai que nous, notre spécialité avec Gérard Davé, c'est d'informer sur les dessous un peu troubles de la vie publique, donc ça implique la mise en cause de gens. Mais voilà, je dirais que quand on révèle une affaire de corruption, je pense que le problème principal, c'est pas de savoir si on a eu de raison de révéler l'affaire de corruption. Le problème principal, c'est de savoir pourquoi et comment il est possible encore de commettre des actes de corruption en toute impunité. Il faut pas confondre le message avec le messager. Nous ne sommes pas spécialistes ou spécialisés ou obsédés par la fraude fiscale, pas du tout. Il se trouve que là, on a enquêté sur la fraude fiscale internationale. Mais ce qui nous a le plus intéressé dans cette affaire de fraude fiscale, d'ailleurs, c'est ce qui n'est pas de la fraude fiscale vraiment. C'est-à-dire, c'est l'origine des fonds, c'est du blanchiment, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de trafic d'œuvres d'art, de trafic d'êtres humains, d'actes terroristes, hein, puisqu'il y a des financements de terrorisme, c'est quand même hallucinant. Et là, on n'est pas dans la petite fraude fiscale, hein, on est dans le blanchiment de l'argent sale. Et c'est se rejoint à travers une structure qui s'appelait donc HSBC, Private Bank, à Genève.
Voilà, Fabrice Loeb, évidemment, du Monde. Pascal Saint-Amand.
Mais ce qui est révélé par l'affaire HSBC, on le savait tous. On sait tous que le secret bancaire en Suisse et ailleurs a permis la localisation de sommes absolument majeures qui étaient en très grande partie de la fraude fiscale, qui maintenant d'ailleurs est une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent, ce qui rend la chose un peu plus sérieuse. Mais aussi, quand vous avez du secret, vous avez toute forme de corruption
fiscal,
qui s'y cache.
Paradis fiscal et fraude fiscale, c'est grosso modo la même chose, ça se tient?
Non, alors un paradis fiscal... un paradis fiscal, on n'a pas de définition juridique du terme, mais en fait, il y a deux volets. Il y a un volet opacité, dans lequel vont, ou à cause duquel vont se cacher toutes les sommes que les gens veulent dissimuler au fisc ou aux différentes autorités de régulation. Et puis, vous avez un autre volet qui est, il n'y a pas de fiscalité et il n'y a aucune activité, donc il y a zéro taxation, avec la possibilité de s'incorporer, de mettre une société sans, en localisant tous ses profits sans être taxé. Et ça, c'est légal. Et donc, nous, ce contre quoi on lutte, c'est à la fois l'opacité, donc mettre fin au secret bancaire, et pas seulement le secret bancaire, mettre fin au secret des trusts, mettre fin aux sociétés offshore, au secret des sociétés offshore, pour qu'on ne puisse plus se cacher, qu'on sache qui est le bénéficiaire effectif de revenus qui vont être sur un compte bancaire ou dans un trust ou dans une société offshore. C'est le premier volet, ça c'est ce qui est illégal. Hein. Et puis il y a un second volet qui est les entreprises peuvent localiser légalement, voilà, en toute transparence, des sommes très importantes.
Mais c'est presque la légalité qui pose le plus problème.
Alors,
à la limite que la fraude, on
puisque
va dire.
C'est légal.
La fraude, c'est de tout. De, voilà.
Oui, mais puisque c'est légal, ce que l'on fait à l'OCDE aujourd'hui, à travers un gros projet qui est de lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices, on dit BEPS parce que c'est l'acronyme en anglais, eh bien c'est de changer la loi. Puisque c'est légal et qu'on n'aime pas, il faut changer la loi. Mais changer la loi internationale avec plus de 44 pays sur un pied d'égalité, sur des règles extrêmement complexes, c'est très difficile, mais on y arrive à condition d'aller extrêmement vite et de garder le soutien politique.
C'est difficile pour quelle raison? Pour ce que vous venez de dire juste à la fin de votre phrase, pour des questions plus politique, on va dire, que économique ou qu'entrepreneurial.
Si on veut faire un tout petit peu d'histoire, les pays se sont tous organisés pour éliminer les doubles impositions, de manière à ce qu'un investisseur qui investit dans un autre pays soit pas taxé deux fois, parce que ça défavorise les investissements et c'est pas bon pour la croissance. Sauf que toutes ces règles, les conventions fiscales, les prix de transfert, je vous passe les détails techniques, ont aujourd'hui facilité ce qu'on appelle la double non-imposition. C'est-à-dire tous les profits sont aux Bermudes. Vous avez 2000 milliards de dollars de profits cumulés de sociétés américaines ou Bermudes. Je répète, 2000 milliards de dollars, d'accord ? Ça augmente de 200 milliards par an. C'est énorme et c'est légal. Alors les pays se sont dit, c'est inacceptable, il faut y mettre fin. Ils sont d'accord pour se partager le gâteau, pour dire que le gâteau ne doit pas être aux Bermudes. Maintenant, comment ils se le partagent entre l'Inde et les États-Unis, entre la France et la Chine ? C'est plus compliqué. Donc, il y a des discussions assez sévères. Néanmoins, tout le monde est d'accord, et c'est ça la bonne nouvelle, pour dire que ça ne devrait pas être aux Bermudes, non pas parce qu'on n'aime pas les Bermudes, c'est très joli, c'est ravissant, mais parce qu'il ne s'y passe rien. Et donc, il ne devrait pas y avoir de profit aux Bermudes.
C'était un de vos objets de bataille au G20, dont vous revenez à Istanbul, dont vous avez tweeté, « Just back from Istanbul, G20 meeting, hashtag BEPS ». Strongly supported by all countries which endorse mandate for multilateral convention.
Ouais. Avec l'accent, oui, déjà je le fais en anglais parce que la plupart de mes suiveurs sont anglophones.
Pardon, donc, my French, oui.
Non, alors ça veut dire qu'effectivement je revenais d'Istanbul où on a eu la réunion des ministres des Finances du G20, où le G20 nous a demandé, ou a plutôt nous a mandaté parce qu'on a demandé un mandat il y a 2 ans pour changer toutes ces règles de fiscalité internationale en 15 mesures en 2 ans. On en a changé la moitié en septembre 2014, on va en changer l'autre moitié en septembre 2015, et là on fait des rapports d'étape et on commence à appliquer les décisions.
Alors, cela dit, il y a paradis fiscal et paradis fiscal. On parle des Bermudes souvent ou des îles lointaines au sable blanc ou blond, mais est-ce qu'on pourrait par exemple appliquer le terme de paradis fiscal, je vous la pose comme ça, hein, la question, à la Grèce, hein. On sait que la Grèce est un paradis fiscal pour ses armateurs, et son église, pas pour le citoyen moyen, d'ailleurs armateur, dont l'action est vantée, écoutez-le, par Nikos Lekas, hein, qui parle d'évasion fiscale en Grèce, c'est dans le documentaire de Xavier Harel, Évasion fiscale, le hold-up du siècle. C'est un chef de la brigade fiscale, Nikos Lekas, qui raconte au fond ce que le paradis fiscal grec fait gagner à son pays.
Pour être clair, je pense que si les impôts n'étaient pas perçus en Grèce, c'est parce qu'il n'y avait pas de volonté politique d'appliquer les lois pour percevoir la matière imposable. Il faut donc que les lois existantes soient appliquées à tous afin d'obtenir aussi bien un impôt sur les grandes fortunes qu'une bouffée d'oxygène pour les revenus bas et moyens. L'évasion fiscale en Grèce, c'est environ 40 à 45 milliards d'euros par an, soit 15 à 20% du PIB du pays. Donc, si nous saisissions ne serait-ce que la moitié de l'évasion fiscale, la Grèce n'aurait plus de problème.
Paradis fiscal ou pas paradis fiscal, la Grèce ?
Je dirais pas ça, parce qu'en fait, l'argent grec, il est à l'étranger, et c'est là le problème. C'est, ils utilisent les paradis fiscaux à l'étranger pour pas payer d'impôts localement, mais vous avez aussi une défaillance totale de l'administration fiscale et du système fiscal pour les Grecs eux-mêmes en Grèce. Donc, c'est un problème global, oui.
La cloche a sonné.
La cloche a sonné, l'école.
Louison, un dessin de Louison arrive sur Twitter dans quelques secondes.
Oui, petit
décrivez
dessin.
Décrivez ce dessin.
Sur la fraude fiscale en Suisse, on y voit la petite tirelire en forme de cochon. Elle se défend en disant que c'est pas de la fraude fiscale, mais de l'affinage de jambon. Il lui manque une petite patte.
Voilà. Le dessin.
Elle est allée planquer ça en Suisse.
Il va être sur franceculture.fr et bien sûr sur Twitter au compte des matins.